Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les gouvernements populistes font-ils du bien à l'économie ? En l'absence de Donald Trump, d'Emmanuel Macron ou encore de Theresa May, lesquels ont manifestement d'autres choses à fouetter, il sera la tête d'affiche du Forum économique de Davos qui démarre demain dans les Alpes suisses, le président brésilien Jair Bolsonaro. Comme le note une dépêche de l'agence France-Presse, ce président populiste, je cite, pourrait passer pour un trublion dans une telle enceinte, acquise à la cause du libre-échange, étant donné qu'un des principaux ressorts du populisme consiste à défendre les mesures protectionnistes. Mais la même dépêche d'agence souligne que le nouveau ministre brésilien de l'économie, lui, est un chantre de l'ultra-libéralisme, Davos compatible donc. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de ces gouvernements qui, des États-Unis à la Hongrie, en passant par l'Italie, pratique une forme de syncrétisme économique en associant politique sociale de relance et mesures libérales. Et en jugé par les performances de ces pays, cela peut sembler payant. Les États-Unis ou l'Europe centrale connaissent de faibles taux de chômage et une forte croissance. Mais que valent ces politiques sur un temps long ? Les gouvernements populistes font-ils du bien à l'économie ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de trois invités. Sébastien Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales, qui publie le CEPI chaque année, son économie mondiale 2019. Donc pour cette édition, c'est publié aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Pour discuter avec vous, Marie Charelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service économie du Monde. Vous y suivez notamment les questions de macroéconomie. Vous êtes la co-auteure d'une enquête publiée il y a quelques jours de cela dans Le Monde. Comment l'Europe centrale est devenue le laboratoire économique du populisme ? Et puis troisième invité, Benjamin Mastenberger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et essayiste, cofondateur du comité Les Orwelliens. On vous avait reçu il y a quelques semaines de cela. Vous disiez que notamment un des éléments fondateurs de ce comité Orwellien, c'était la notion de souverainisme. Et puis vous avez publié, j'ai deux ouvrages, Casser l'euro pour sauver l'Europe, au lien qui libère, ça c'était en 2014 je crois, oui. Et puis Inévitable protectionnisme chez Gallimard, c'était en 2012. Alors on va voir ce soir en quoi les gouvernements populistes obtiennent de bons ou de mauvais résultats, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que des politiques économiques vues de ce point de vue-là, mais je voudrais d'abord qu'on commence par examiner les conditions de l'arrivée au pouvoir de ces gouvernements, les conditions notamment économiques. Est-ce que vous diriez les uns et les autres, comme le disait Dominique Strauss-Kahn en septembre dernier, que le populisme est le produit direct de la crise ? Sébastien Jean.
Dans une certaine mesure, certainement. C'est-à-dire que la crise contribue à déstabiliser un système en place, hein, l'organisation d'une société, de solidarité économique, d'un système de redistribution aussi, d'un système de répartition de la richesse. Ce qu'on voit avec une période de crise qui, en l'occurrence, la crise financière d'il y a 10 ans et la période qui l'a suivie, c'est une très faible croissance dans les années qui suivent, ce qui fait que les conflits de répartition s'exacerbent, c'est-à-dire il s'agit plus de gagner un peu plus ou un peu moins, il s'agit du fait que s'il n'y a plus de croissance, si certains gagnent, d'autres vont perdre. Et puis, y a des secteurs entiers qui peuvent être sinistrés, des régions entières aussi qui peuvent subir un coût économique et social très dur et très déstructurant, je crois. Donc, effectivement, je crois que cet ensemble crée une base pour, disons, des mouvements politiques forts.
La croissance est une pommade apaisante, dites-vous, Sébastien Jean. C'est-à-dire que ça permet justement, quand il y a de la croissance, d'avoir des politiques redistributives peut-être qui oui. permettent de supporter mieux les inégalités.
Je crois que c'est un échappatoire commode au conflit de répartition, justement parce que on n'est pas des intérêts complètement antagonistes. On peut simplement avoir des divergences et essayer de se mettre d'accord sur un niveau de répartition de la croissance qui arrive du surplus, et c'est beaucoup plus facile que d'imposer des pertes à une partie de la population.
Marie Charelle, sur l'impact de la crise, économique, sur l'émergence du populisme, en tout cas, ou sur l'arrivée de populistes au pouvoir ?
Alors, il est clair que la crise a servi de catalyseur à plusieurs niveau. D'abord, il y a toutes les évolutions qu'on constate depuis la fin des années 70, la hausse des inégalités, etc., qui en effet étaient un petit peu assoupies avec la croissance qui permettrait de Oui, de redistribuer, mais donc tout ça est beaucoup plus évident aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'il y a des pays qui ont moins souffert de la crise de 2008-2009. Si on prend en Europe centrale, par exemple, en Europe de l'Est, la Pologne, qui est un des seuls pays d'Europe qui a pas eu de récession. Mais la crise a joué de façon différente dans ces pays-là, si on prend cette zone. Elle a révélé ce qui fonctionne pas dans le si on synthétise un petit peu, dans le consensus de Washington, dans le libéralisme. Et ça dans cette zone-là, plutôt déclenché un rejet.
Il faut dire que ce sont aussi des pays, peut-être, alors les pays d'Europe centrale, qui, à la fin du RSS et du bloc de l'Est, ont dû s'adapter à ce capitalisme de manière assez rapide et radicale.
C'est ça, ça a été une libéralisation tout de suite, privatisation dans une large mesure. Et la crise a, je crois, servi de prise de conscience, en tout cas si on regarde dans la Hongrie, la Pologne, sur ce modèle-là. On veut plus de ce modèle-là. La crise de 2008 montre que ce que font les pays occidentaux ne fonctionne pas. On veut prendre un autre chemin. Et c'est ce que, en tout cas, essaye de faire Viktor Orban.
Benjamin Mastenberger, est-ce que vous faites, vous aussi, un lien entre crise économique et montée des populismes? Est-ce que vous le faites pour les mêmes raisons?
Oui, il y a un lien direct. Je rejoins ce que vient de dire Marie Charelle, c'est-à-dire que la crise signe l'explosion en vol du consensus de Washington, du système de la mondialisation tel qu'il a été défendu, développé pendant 30 ans. Donc, effectivement, je pense que la situation est un peu différente peut-être dans les pays d'Europe de l'Est et les pays occidentaux. Pour les pays occidentaux, la crise a démontré effectivement que c'était un système qui était profondément inégalitaire et que c'était un système aussi où les classes moyennes étaient dans une forme de paupérisation rampante qui, à la faveur de la crise, s'est révélée au grand jour. On l'a vu aux États-Unis, ça a débouché sur le vote de Trump, une remise en cause du libre-échange. On l'a vu aussi en Italie récemment, on le voit avec la crise des Gilets jaunes. Donc, il y a une remise en question fondamentale du système de la mondialisation, parce que la crise a démontré que, quand on enlève un petit peu, effectivement, les formes de répartition, mais qui créent de l'endettement et qui, donc, finalement, ne sont pas viables et ne sont pas tenables, on a, en fait, un système qui est très profondément inégalitaire.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est pas juste un problème de faible croissance? C'est-à-dire, quand il y a crise, il y a moins de croissance? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi, peut-être, l'effet d'une absence de remise en cause de certaines politiques, c'est-à-dire depuis 10 ans, depuis 2008, qui pourraient alimenter, justement, cette tendance politique qui est importante, hein, en particulier en Europe.
Effectivement, c'est-à-dire quand il y a moins de croissance, on voit que c'est un système, encore une fois, qui est inégalitaire. Mais même quand il y a de la croissance, le système est quand même malgré tout en grande partie dysfonctionnel parce qu'il est extrêmement financiarisé, parce qu'il est aussi extrêmement court-termiste. Et si on prend d'autres exemples que les exemples des pays occidentaux, on voit aussi qu'il peut y avoir, par exemple, de façon extrêmement rapide, des fuites de capitaux qui vont déstabiliser des pays. On l'a vu en Amérique du Sud, par exemple. Et ça déstabilise aussi des sociétés. On l'a vu aussi avec les évolutions extrêmement erratiques, par exemple, des prix des matières premières ou des prix du pétrole. On le voit d'une certaine façon avec la crise des Gilets jaunes, mais on l'avait vu aussi avec les crises des printemps arabes, avec l'augmentation des prix des matières premières. Donc on voit que le libre-échange paupérise les classes moyennes, donc ça crée beaucoup de problèmes dans les pays occidentaux. La financiarisation déstructure les tissus économiques d'un certain nombre de pays. Et donc, il y a des sortes de réactions ces pays sécrètent des anticorps par le biais des populismes, d'une certaine façon.
Est-ce qu'on pourrait dire, en tout cas, est-ce que vous diriez, vous, Sébastien Jean, que la montée des populismes et l'arrivée des populistes au pouvoir, elle signe aussi l'échec d'une certaine idée du libre-échange?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais elle est notamment une crise de la mondialisation, oui. Simplement, à mon sens, il est très difficile, il est même au fond assez un peu artificiel, d'essayer de déconnecter complètement mondialisation et progrès technique et évolution technologique. On a vraiment une évolution d'ensemble, et je dis que c'est difficile à déconnecter parce que le progrès technique naît beaucoup de la mondialisation, parce qu'il la permet aussi, il la rend même difficile à éviter par toute la facilitation des échanges, des transports, etc. Et cet ensemble-là, c'est vrai qu'il a eu un mouvement, il a créé des forces qui ont tendance à polariser la richesse, polariser au sein du marché, au sein du marché du travail, polariser donc en termes de qualification, polariser géographiquement aussi, territorialement, et ça c'est très déstructurant. Voilà, des mouvements assez forts qui sont, je pense, très déstabilisants pour l'organisation sociale et politique des pays.
Mais ça veut dire qu'un certain nombre de gouvernements qui pratiquent peut-être des politiques économiques plus orthodoxes ne se sont pas suffisamment posés les questions que posent aujourd'hui, par exemple, les gouvernements populistes, Marie Charelle ?
À l'évidence, ce qu'on peut voir, c'est que si on prend le mouvement de libéralisation et de financiarisation auquel on assiste depuis les années 80, c'est, si on schématise, les sociaux-démocrates, beaucoup, qui l'ont accompagné. Et qui ont essayé pendant la crise de mettre en œuvre des politiques de relance qui n'ont pas duré très longtemps, puis des politiques d'austérité. Donc c'est aujourd'hui, c'est cette social-démocratie, je crois, qui est en crise, puisque, et qui a du mal à remettre en question sa doctrine économique, puisque c'est celle qui fonctionne aujourd'hui pas très bien. Donc c'est difficile de remettre en cause ce qu'on a fait ces 20-30 dernières années. Je crois que c'est un des vrais soucis aujourd'hui qu'on peut voir en France dans le Parti Socialiste, c'est comment repenser sa doctrine économique par rapport à ce qui fonctionne pas bien et tous les problèmes qui sont pointés du doigt par les populismes.
Benjamin Massestenberger, est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que, pour prolonger un petit peu du coup dans la discussion, est-ce que les gouvernements populistes, et en tout cas leur politique économique, peuvent être justement l'occasion de repenser un certain nombre de doctrines, enfin en tout cas la doctrine dominante, disons, en matière de politique économique?
Alors, c'est difficile parce qu'effectivement, en termes économiques, je pense qu'il y a une multitude de réponses qui sont apportées par les gouvernements populistes. Je pense que, bon, déjà, il y a la composante économique qui est pas toujours, malgré tout, il faut reconnaître la composante principale. Il y a aussi une composante identitaire, culturelle, c'est dans beaucoup de ces mouvements, mais il y a en commun une contestation.
C'est sans doute d'ailleurs cette composante identitaire, ce qui définit d'abord ce qu'est le populisme, sans doute davantage que l'économie. Mais oui, il y a quand même de l'économie.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a en commun la question des frontières, c'est-à-dire que la mondialisation, que ce soit la libre circulation des hommes, des capitaux commerciaux, il y a une sorte de contestation qui monte par rapport à ce système de mondialisation, que ce soit effectivement sur le plan culturel ou identitaire, ou que ce soit sur le plan économique. Alors l'économie, souvent, passe un peu au second plan, c'est aussi un petit peu plus compliqué à expliquer les mécanismes de diffusion. Après, je pense que le constat que font un certain nombre de ces mouvements populistes, moi, me semble légitime, me semble justifié, c'est-à-dire c'est un constat de dysfonctionnement du système, y compris d'ailleurs des gens qui ne sont pas populistes, sont prêts aujourd'hui à faire ce constat, je pense. Maintenant, les réponses qui sont apportées, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, parce que la difficulté en réalité de la contestation de ce système néolibéral mondialisé, c'est que ça implique d'une certaine façon une solution internationale, et que les solutions populistes sont des solutions nationales, alors qui peuvent marcher temporairement ou d'une certaine manière. Si vous faites du dumping social ou du dumping fiscal, peut-être ce qu'on fait certains pays d'Europe de l'Est d'une certaine façon, ça peut marcher effectivement. Ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire de rétablir une certaine de remettre en place une certaine forme de protectionnisme, et puis de faire aussi des baisses d'impôts, on voit que ça peut marcher temporairement, et aussi parce qu'on a un pays qui est l'hyperpuissance et donc qui peut imposer un rapport de force aux autres pays. Mais globalement, les différents pays qui ont imposé des programmes populistes pour l'instant, on n'a pas une réflexion d'ensemble qui permettrait, disons, de mettre en place un nouveau paradigme de façon générale. Donc là, on va se heurter, je pense, à des contradictions assez rapidement, y compris aux États-Unis.
Alors, si on n'a pas de réflexion d'ensemble, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a quelques grands points communs qui permettraient de ranger dans la même catégorie? On verra sur les différences ensuite, mais quelques grands points communs qui pourraient dire, là, quand on a un gouvernement populiste qui est au pouvoir, les grandes lignes de sa politique économique, elles relèvent par exemple de tels critères, Sébastien Jean?
C'est vraiment difficile. C'est-à-dire que même il faut quand même commencer par dire qu'il y a beaucoup de populisme, même en termes politiques. Et en particulier, il y a des populismes colorés à gauche et d'autres à droite. En ce moment, on a quand même plus à droite, il faut bien l'avouer aussi. Maintenant, si on regarde en termes économiques, est-ce qu'on trouve vraiment des points communs? Je trouve que ce qui frappe d'abord, c'est la très grande diversité, et y compris des gens qui ont une politique, disons, une vision politique très clivante, justement un populisme très assumé, qui au fond vont avoir une politique économique assez standard. Maintenant, si j'essaie de trouver des points communs, d'abord, je crois que le point de départ, c'est le fait qu'il y a une conception de la solidarité, si vous voulez, qui s'inscrit dans le cadre de l'État et souvent d'un projet, disons, national et protectionniste aussi, souvent, un peu. Et dans ce... Ça met en avant la relation, le leader, donc la volonté politique et le peuple. Et donc... ça a tendance, d'une façon générale, à aller vers des politiques dans lesquelles on va avoir un grand volontarisme, souvent une façon aussi de contester les contraintes telles qu'elles sont décrites, un rôle de l'État, très important aussi, de différentes façons, sans tabou, souvent, le rejet des élites et aussi de ce qui va avec des règles, des autorités indépendantes, des contre-pouvoirs économiques aussi, si on veut, justement, parce que le pouvoir de la majorité, le pouvoir du peuple doit s'exprimer, y compris en termes économiques. Et souvent le protectionnisme. Voilà. Moi, si vous voulez, les ingrédients, je pense qu'il n'y a pas un profil type, mais si j'essaie de réfléchir aux ingrédients que je retrouve la plupart du temps, il me semble que ce sont ceux-là.
Je ne sais pas si vous en souvenez, Marie Charel, mais pour Le Monde, en 2017, vous aviez signé un autre article, justement, pour savoir si la question qui était posée de mémoire, c'était est-ce que les gouvernements populistes sont crédibles au niveau de l'économie. Vous citiez notamment le rapport d'un groupe consultatif économique européen qui s'appelle l'EEAG, qui avait travaillé justement sur les ressemblances des politiques économiques populistes. Et il en ressortait justement que protectionnisme et politique de relance assez vigoureuse pouvaient faire partie de ces points communs.
Alors c'est vrai que le volontarisme est clairement un point commun, mais il y a souvent un écart entre le discours et les faits. Il y a souvent plus de volontarisme dans le discours que dans ce qui est vraiment mis en œuvre. Pour le coup, on le voit par exemple en Europe de l'Est, où quand on parle de on veut renationaliser l'économie, la polonisation de l'économie, etc., il y a vraiment un distinguo qui est fait dans les investisseurs étrangers entre ceux qui peuvent profiter à l'économie et qui continuent d'accueillir avec une fiscalité avantageuse et ceux auxquels on ferme la porte. Et en fait, ça reste...
Cela dit, le décalage entre les intentions qui sont affichées et la politique qui est réellement menée, je pense qu'on pourrait la reprocher à n'importe quel gouvernement dans le monde, et pas seulement au gouvernement populiste, non ?
C'est vrai. c'est vrai, sauf que peut-être que ce qui est affiché est en effet sans tabou et parfois assez violent verbalement.
Sans tabou, c'est-à-dire sans crainte de déroger justement une forme d'orthodoxie budgétaire ou économique, justement ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on dit on va rejeter les étrangers, c'est des choses qui peuvent être assez assez choquantes. Est-ce qu'on retrouve dans ce rejet de l'élite internationale avec un peu cette où on met tout le monde dans le même sac, les règles du FMI,
Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Benjamin Stamberger, pour dire que alors le protectionnisme, en tout cas, ça peut faire partie justement des points communs à ces différents gouvernements. Mais je rappelais au début de l'émission que vous aviez co-signé un livre qui s'appelait Inévitable protectionnisme. En la matière, est-ce que vous considéreriez que ces gouvernements-là apportent une bonne réponse à une bonne question, qui est celle de la crise de la mondialisation ?
Alors,
sur le protectionnisme.
Alors, oui. Non, c'est-à-dire, ça dépend comment c'est fait. La logique du protectionnisme, parce qu'on voit bien que pendant des années, effectivement, le système promouvait le libre-échange, donc la logique, c'était de diaboliser le protectionnisme en expliquant que c'est le repli sur soi, que c'est une tentation protectionniste qui serait de rejeter la coopération. Et nous, ce qu'on expliquait dans notre livre, c'était que sous couvert de coopération, en réalité, on avait plutôt une sorte d'alliance entre des élites, une oligarchie, et puis des États qui étaient en développement, comme par exemple la Chine. Et donc, une alliance entre les élites d'un certain nombre de grands pays occidentaux et puis avec des pays en développement dont ils ont profité, disons, de la main-d'œuvre à bas coût. Donc, ce système nous semblait non viable, effectivement. Il a explosé en vol. Donc, après, ce qu'on appellerait un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire un protectionnisme qui promeut une régionalisation de la production, ne serait-ce que pour des raisons écologiques d'ailleurs, pour éviter un certain nombre de transports, etc. Donc rapprocher le producteur du consommateur, taxer un certain nombre de pratiques qui, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan environnemental, exercent une forme de concurrence déloyale. Donc je pense que si cela est fait de manière intelligente, oui, il y a une manière effectivement de promouvoir un autre mode de fonctionnement, un autre système on rapproche encore une fois le consommateur, le producteur, l'économie locale, et puis on promeut l'emploi tout simplement parce que si vous taxez des produits qui sont faits à bas coût, vous avez une possibilité, une chance peut-être de réindustrialiser la production locale. Donc alors évidemment,
est-ce que c'est fait de manière intelligente aujourd'hui dans certains cas?
Alors, c'est compliqué parce que ce qu'on objecte souvent et de façon parfois à juste titre, c'est que quand vous êtes un trop petit pays, vous n'avez pas les moyens de faire ça parce que après, vous allez avoir un problème, vous allez avoir des rétorsions de la part des gens par rapport à vos exportations. Donc, il faut être soit un grand pays, soit faire ça effectivement de façon intelligente, modérée, ponctuelle. Mais il y a un certain nombre d'instruments qui peuvent être utilisés. Alors, je pense que moi, il me semble que ce que fait Donald Trump en la matière, en soi, sur ce plan particulier du protectionnisme, moi, me semble pas fondamentalement négatif. Après, il faudrait juger sa politique d'ensemble, etc. Mais sur ce plan de la relocalisation et d'utiliser effectivement l'arme des droits de douane comme une forme de rapport de force, moi, ça me semble tout à fait légitime.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Les gouvernements populistes font-ils du bien à l'économie? C'est la question que nous posons ce soir à Benjamin Bastian-Berger, à Marie Charelle et à Sébastien Jean. Alors Benjamin Bastian-Berger, vous disiez que sur l'approche en tout cas que peut avoir Donald Trump par rapport à la politique protectionniste, c'était plutôt quelque chose qui vous semblait aller dans le bon sens. Il ne s'agit pas de donner un accord à l'ensemble de sa politique. Mais alors justement, examinons peut-être les effets de ces politiques-là. J'ai noté dans le chapitre que vous avez rédigé pour l'économie mondiale 2019 du CEPI, Sébastien Jean, qu'il y avait un sous-chapitre intitulé « L'économie mondiale va bien, pas la mondialisation ». Est-ce qu'il faut comprendre que finalement, en période peut-être de démondialisation et de protectionnisme qui avance, l'économie mondiale se porte malgré tout pas si mal, ce qui pourrait donner crédit à ces gouvernements populistes de mener des politiques qui finalement réussissent plutôt bien.
Moi, je dirais pas qu'au niveau mondial, la démondialisation avance tellement, ni le protectionnisme, parce qu'il y a quelques grands gouvernements, donc c'est le cas de Donald Trump, en particulier, qui augmentent les barrières douanières, mais on commente moins le fait que, en un an, la Chine a passé son droit de douane moyen sur l'ensemble de ses importations de 9,8% il y a un an à 7,5% aujourd'hui. C'est-à-dire un mouvement tout aussi important à la baisse que celui que Donald Trump a fait à la hausse. Globalement, beaucoup de questions. C'est ça que j'essaie de dire dans ce chapitre. Bon, ça a été rédigé il y a 6 mois, mais de contraster le fait que la conjoncture économique va bien, mais en termes d'institutions, si vous voulez, il y a beaucoup, je nie pas du tout, le fait, il y a beaucoup, et c'est justement là-dessus que j'essaie d'insister, beaucoup de questions se posent, une remise en question de ces institutions de la mondialisation. Au niveau commercial, justement, en se demandant, mais est-ce que les chocs socio-économiques n'ont pas été trop importants et qu'ont fait effectivement les États-Unis? Au niveau financier, ça date déjà d'il y a 20 ans, mais progressivement, ça a progressé énormément. Le fait de mesurer le coût de cette volatilité très forte des capitaux internationaux et au niveau migratoire évidemment aussi. Donc sur tous les aspects, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais l'interdépendance, la mondialisation dans le sens interdépendance économique, elle reste aussi élevée, aussi importante qu'elle a jamais été. Bon, il y a une légère diminution sur un certain nombre d'indicateurs, enfin légère ou un peu plus importante financièrement, mais pour l'instant, je pense qu'on peut plutôt parler de plateau que de redescente, disons, de l'intensité de la dépendance.
Et lorsqu'il y a des politiques qui visent à limiter un peu cette interdépendance et être plutôt justement orienté vers le protectionnisme, est-ce que ce sont des économies qui se portent plutôt bien? Restons sur le cas des États-Unis. La croissance est plutôt à un niveau élevé, le chômage est bas.
Oui.
Ça donne raison, a priori, à Donald Trump.
Non. Alors vraiment, je crois que ça donne surtout raison à Barack Obama, qui a très bien géré l'après-crise. Et qu'est-ce qu'a fait Donald Trump en termes économiques? Il a donné un coup d'accélérateur l'an dernier, il y a un an, avec la réforme fiscale. Alors accélérer avant un virage, ça fait gagner de la vitesse dans un premier temps, hein, mais moi j'attends la sortie de virage pour voir où on est exactement le véhicule économique américain. Et donc là, les États-Unis sont dans une phase de croissance assez bonne, ils sont à 4% de déficit budgétaire. Que vont-ils faire quand la croissance va se dégrader, qu'il y aura une chute mécanique, hein, comme toujours quand la croissance tombe, de leurs recettes, une augmentation des dépenses? Ça pose vraiment question. Donc c'est assez risqué la stratégie aujourd'hui économique de Donald Trump. Maintenant, l'impact du protectionnisme, il est un peu tôt pour le mesurer exactement, mais il se regorge de quelques investissements dans la sidérurgie, mais on voit qu'à côté, il y a des impacts potentiels beaucoup plus importants dans beaucoup d'autres secteurs. Et que d'ailleurs, il y a un grand malaise qui est en train de s'installer parce que justement, les milieux économiques contestent massivement cette politique. Donc, je crois que là, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à apporter une réponse pertinente à ces interrogations.
Est-ce qu'on peut apporter une réponse pertinente s'agissant des pays d'Europe centrale sur lesquels vous avez enquêté dans ce long papier que vous avez co-signé d'ailleurs, Marie-Charelle, il y a quelques jours pour le journal Le Monde? Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'efficacité ou pas de ces politiques pour des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Pologne?
Alors là aussi, il n'y a pas de réponse claire parce que déjà, il y a un contexte économique qui est favorable depuis la crise. Ces pays ont profité de la reprise du commerce international assez largement parce qu'ils sont pour la plupart très ouverts, très intégrés aux chaînes de production industrielle européenne, notamment l'industrie automobile allemande. Donc ils profitent de ça et ça, c'était en place avant qu'ils arrivent. Ils ont plutôt eu tendance à l'augmenter, à garder une fiscalité avantageuse pour ces industries et qui profitent également du bas coût du travail. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, c'est l'importance des fonds structurels européens qui portent vraiment la croissance. S'il n'y avait pas ces fonds structurels, la croissance serait beaucoup moins forte. Le troisième élément, c'est le bas taux de chômage qui, en effet, peut faire rêver vu d'ici, mais il est aussi porté par des tendances démographiques très mauvaise, c'est-à-dire un déclin de la natalité, la fuite des cerveaux. Donc d'ailleurs, tous
aucun
ces indicateurs...
de ces bons résultats ne peut être mis au crédit de ces gouvernements. C'est-à-dire, il n'y a pas une mesure où on pourrait dire, ça, effectivement, c'est un impact direct sur la bonne santé économique et sociale de ces pays. Enfin, encore que bonne santé sociale, s'agissant de la Hongrie, on voit que ces derniers temps, il y a de fortes manifestations pour un pays comme la Hongrie, justement, contre la politique menée par Viktor Orban.
Alors, ce qui est complexe, c'est qu'on peut pas tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas mauvais dans ces politiques économiques, au sens où une partie de ces politiques économiques est finalement assez classique et aurait pu être mise en place par des gouvernements non populistes. Tout ce qui est fiscalité attractive, extrêmement favorable aux investisseurs étrangers, des gouvernements conservateurs auraient pu les mettre en place de la même façon, tout comme une partie du volet social aurait pu être mise en place par des sociaux-démocrates. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que tout n'est pas démoniaque ou à jeter dans ces politiques économiques. Après, il faut aussi garder en tête que là, on est sur des horizons temporels de court terme. À moyen et long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner quand on a une remise en cause de l'indépendance de certaines institutions. Tout ça, ce sont des choses qui se dégradent lentement. La Banque centrale hongroise, par exemple, qui a une indépendance assez limitée, pour l'instant, ça a assez peu d'impact. La prochaine crise, là, on pourrait voir un impact clairement négatif. Donc c'est ce qui est pas évident, c'est qu'il y a aussi une question vraiment d'horizon de long terme. Comme aux États-Unis, pour l'instant, à court terme, la réforme fiscale a des effets boostants très positifs. On verra dans quelques années. Donc, souvent, la question des politiques économiques, il y a vraiment un effet. Il y a les effets des gouvernements qui étaient là avant. Ce qui est mis en place aujourd'hui aura des effets à long terme. Et l'autre question, c'est quid des problèmes de fond liés à l'éducation, à la formation, tout ce qui met du temps à se mettre en place et auquel la plupart de ces gouvernements, me semble-t-il, ne répondent pas.
Est-ce que, alors une question que je me pose et que je vous pose à tous les trois, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une forme de difficulté à juger de manière objective l'efficacité ou les résultats, disons, de ces politiques? du fait que justement ce soit des gouvernements populistes. Vous le disiez tout à l'heure, Sébastien Jean, aujourd'hui ce sont plutôt des gouvernements populistes de droite, d'extrême droite, hein. États-Unis, Brésil, Hongrie. Est-ce que le fait que justement il y ait donc des atteintes dans certains cas, par exemple à l'état de droit, ça ne conditionne pas le jugement qu'on peut porter sur les politiques qui sont menées. Et peut-être que d'ailleurs c'est nécessaire de faire ce lien ou pas. J'aimerais avoir votre avis à tous les trois, Benjamin Mastam-Berger.
Oui, je pense que c'est clairement oui. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de l'Italie, alors c'est pas forcément d'atteinte fondamentale, même si on pourrait en discuter, mais on voit bien qu'il y a un préjugé différent selon que vous êtes populiste ou selon que vous êtes, disons, dans l'idéologie dominante de l'européenne. Par exemple, la manière dont a été traitée l'Italie par la Commission européenne est quand même révélatrice d'une certaine forme de prisme, parce que le déficit italien, on le voit encore plus maintenant que le déficit français va exploser la barre des 3%. Le déficit italien était quand même relativement contenu. On était à 2,4%, on va finalement être à 2%. Donc on était en deçà des critères de Maastricht de 3%. Et on voit que la manière dont ont été traités les Italiens a été fondamentalement différente de ce qu'elle aurait été si ça avait été un gouvernement classique, disons. Donc il y a un préjugé qui peut aussi avoir des effets cumulatifs et autoréalisateurs. C'est-à-dire que si vous les empêchez de mener en plus leur politique, s'ils sont contraints à des politiques d'austérité, bah, c'est sûr que ça va faire que, d'une part, les radicaliser et les résultats économiques ne vont pas être au rendez-vous. Donc, et y compris dans le prisme des investisseurs, y compris dans la perception globale qu'on peut avoir, ça a un effet aussi sur l'économie. Donc c'est pas uniquement les mesures qui sont prises, il y a aussi tout l'aspect psychologique, évidemment.
Sébastien Jean et ensuite Marie Charelle.
Oui, je pense qu'il y a un décalage souvent, effectivement, dans un premier temps, parce que justement il y a cette différence entre le discours qui est tenu, les annonces qui sont faites, et puis la réalité. Donc ça fait qu'on commente beaucoup les annonces, qui parfois ne sont pas la même chose que la réalité. Maintenant, ce que je trouve frappant également, surtout en comparaison historique, c'est qu'il me semble que les populistes d'aujourd'hui, économiquement parlant, sont beaucoup plus pragmatiques que les populistes d'hier. La politique économique de Juan Perón en Argentine, à la sortie de la guerre, c'était autrement ambitieux en termes de rupture des tabous, hein, de transgression des règles, que ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, finalement, même en Italie, on l'a vu, bah, là, finalement, ils vont faire 2% de déficit budgétaire. Bon, c'est pas non plus, au fond, révolutionnaire, hein, comme politique.
Donc, ils mettent quand même en place un revenu universel, ils abaissent l'âge de la retraite.
Oui, mais
c'est pas la tendance dominante.
Mais ils vont faire un déficit budgétaire qui sera inférieur à celui de la France aujourd'hui. Donc, on est des pays riches, on peut expérimenter ce genre de choses. Je pense que ça n'a rien de très transgressif, disons. Voilà.
Mais vous n'avez pas répondu à la question du coup, Sébastien Jean. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut juger des politiques économiques de ces gouvernements en faisant abstraction de la dimension politique, justement?
On devrait pouvoir, mais je pense que la dimension politique, effectivement, elle amène notamment à beaucoup s'intéresser à certains aspects qui sont liés à une pratique du pouvoir qui, souvent, justement, est assez volontariste, assez forte, assez autoritaire. Et du coup, en termes économiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent un caractère assez discrétionnaire des politiques qui sont mises en place. Donc, on va avoir beaucoup de tendance à contester ce caractère discrétionnaire. Et puis, potentiellement, beaucoup de dérives clientélistes et de corruption qu'on observe, hein, par exemple en Hongrie aujourd'hui, mais qu'on a observé dans beaucoup de ces cas-là. Alors, est-ce que c'est objectif? Je crois que objectivement, ça favorise ce genre de dérives, et subjectivement, ça nous amène à les anticiper au fond quand on voit leur programme.
Marie Charelle.
Il est vrai que on a, je pense, beaucoup d'observateurs ont été troublés au tout début à l'arrivée de Donald Trump, où finalement les marchés ont applaudi. Pareil au Brésil, on s'est dit bah finalement les investisseurs aiment bien les populistes. Alors c'est vrai qu'à court terme on peut le constater, mais à moyen terme, tout ce qui relève de l'état, des atteintes à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, tout ça, ça finit par dégrader ce que les investisseurs de long terme regardent, ceux qui investissent vraiment dans les pays. Quand la justice se dégrade, il se passe ce qu'on voit par exemple en Turquie, où l'indépendance de la banque centrale est remise en cause, l'économie va pas bien du tout. Donc ce qui peut marcher à court terme et séduire les investisseurs, quand ça finit par se traduire par une dégradation de l'environnement des affaires, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon, ça finit par avoir un impact économique concret. Pour l'Europe de l'Est...
De là à faire fuir par exemple justement les investisseurs, ou bien est-ce qu'ils peuvent se satisfaire de n'importe quel régime politique du moment qu'ils ont la possibilité justement de travailler?
Alors, ils peuvent s'en satisfaire dans une certaine mesure, mais si ça se traduit en plus par une fuite des cerveaux et qu'il finit par y avoir des problèmes de main-d'œuvre, c'est compliqué.
Si on le constate, cette fuite des cerveaux, par exemple en Europe centrale?
Alors, dans une certaine mesure en Europe centrale, après, ce qui est propre à cette région, c'est qu'on reste dans le cadre de l'Union européenne. Et ça rassure les investisseurs. Ce qui est un peu perturbant, c'est que, comme disait Sébastien Jean, la plupart de ces gouvernements sont extrêmement pragmatiques d'un point de vue économique. Et finalement, savent très bien où sont les lignes rouges, et notamment celles de l'Union européenne. Et ce cadre-là, avec les fonds structurels et tout, cet environnement juridique européen, et quand même rassurant pour les investisseurs qui se disent « bon, bah, même si on a Viktor Orban, on reste dans l'Union européenne ».
Ce pragmatisme, d'ailleurs, est-ce que ça peut conduire? Enfin, on a l'impression que c'est le cas, une forme de syncrétisme parfois, c'est-à-dire des mesures qui sont davantage, a priori, des mesures qu'on attendrait d'un gouvernement de gauche, avec des choses beaucoup plus libérales. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de syncrétisme, d'ailleurs, ou de contradiction au sein même de ces politiques, Sébastien Jean.
Oui, il peut y avoir ce genre de combinaison ou d'ambiguïté. On le voit à propos du Brésil aujourd'hui, on en a parlé. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas aujourd'hui s'ils vont aller dans un sens d'ultralibéralisme ou d'étatisme renforcé, dans la mesure où les orientations annoncées du ministre de l'économie et du président sont assez radicalement différentes quand même, il faut bien le dire. Donc, effectivement, je pense qu'il y a ce genre de questions qui se posent clairement aujourd'hui.
J'évoquais tout à l'heure dans un article plus ancien que vous avez signé, Marie Charelle, cette étude d'un institut européen, le AAG, qui faisait des comparaisons justement entre les politiques économiques menées par les gouvernements populistes et qui disait notamment ceci: la bonne nouvelle, c'est que la montée de ces mouvements pourrait forcer les gouvernements à traiter enfin les problèmes économiques qu'ils n'ont pas suffisamment pris en compte jusque-là. Ça, c'était en 2017. Vous direz que début 2019, Benjamin Mastamberger, cette bonne nouvelle, elle en est où?
C'est vrai que d'une certaine façon, il y a une nécessité de la part des partis qui mènent des politiques plus traditionnelles de prendre en compte davantage, ne serait-ce que la question sociale, qui nourrit effectivement les inégalités, nourrissent le populisme. Donc il y a la nécessité de bouger là-dessus. On le voit bien en France, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, où ce qui était impossible quelques mois avant est devenu possible. On a débloqué 10 milliards alors que c'était absolument impossible. C'était une transgression extraordinaire de sortir justement des critères des 3%. Et on voit bien que quand il y a une pression politique très forte, ça permet effectivement de faire des choses qui ne l'étaient pas. Donc là-dessus... Oui, maintenant, il y a quand même un système économique globalement qui repose sur des règles, encore une fois, du libre-échange, de la financiarisation, qui sont des règles qui sont impossibles à contester dans le cadre de la doxa dominante. Et ce sont ces règles qui produisent en réalité le populisme. Donc il y aura la nécessité à un moment donné de changer de paradigme de façon fondamentale. Et ça... c'est difficile à faire pour les partis en place. On parlait de la social-démocratie parce que il faut changer complètement de logiciel, quoi.
Donc, on peut s'attendre à ce que le forum économique de Davos qui commence demain soit le lieu de cette remise en cause, Marie Charelle, ou bien si ça doit se passer, ça sera partout sauf là.
Oui, c'est pas sûr que ça se passe à Davos. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on a à peu près cerné le problème. Il faut protéger ce qu'on appelle un peu vite les perdants de la mondialisation, donc revoir nos systèmes sociaux. On a à peu près cerné le problème, mais on est loin d'avoir ne serait-ce que le début d'une solution de ce que ça veut dire concrètement. Et ça va être ça l'enjeu des prochaines années, me semble-t-il.
Sébastien Jean.
Oui, je crois effectivement que les dirigeants et les questions de politique économique se focalisent sur la façon d'essayer de protéger mieux faire face aux chocs qui arrivent dans cette économie mondialisée, sachant que Il me semble que pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de politique de démondialisation qui est, ou de protectionnisme qui a été proposée et qui soit une réponse cohérente. On a plutôt l'impression que la voiture qui avait marché sur le pied ferait marche arrière et repasserait sur le pied en recausant autant de dégâts qu'elle en avait fait initialement. Donc les questions sont là. On voit l'Union européenne, par exemple, essayer d'y répondre avec plus de volontarisme par rapport au marché public, à l'investissement étranger, à la défense commerciale. Tout ça, ça fait partie des réponses autour desquelles on tourne, et je crois que beaucoup de monde voit que ça n'est pas suffisant aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sébastien Jean, Benjamin Bastenberger et Marie Charelle. Les références vers vos ouvrages respectifs, vers vos journaux, c'est sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Émission que vous pouvez réécouter, télécharger et voir en extrait vidéo d'ici quelques heures, toujours sur le même site. Merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richet, Leïla Saïdi, Virginie Ledoux, Antoine Ulster et Guillaume Laguigné. Réalisation Peyré Le Gras, prise de son Anthony Thomasson. Dans 3 minutes, la dispute, Arnaud Laporte.
Absolument, une dispute consacrée à la danse. Ce soir, Hervé Gardette et la question du Grain à Moudre. Demain.
La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le retour de Laurent Gbagbo ?